7h18, le billet politique. Frédéric Saez, chaque matin de cette semaine, nous nous rendons à l'étranger pour examiner les conséquences politiques de la crise sanitaire. Nous étions à Rome hier, nous nous rendons ce matin à Londres. Avec vous, Frédéric Saez, bonjour.
Bonjour à tous et bonjour Richard Place.
Bonjour.
Correspondant permanent de France Culture à Londres, merci d'être avec nous pour ce bilan politique de la crise sanitaire au Royaume-Uni. Est-ce que le Premier ministre Boris Johnson est perçu comme ayant bien géré la situation ?
Non, clairement non. Il y a un chiffre qui le résume et c'est sans appel, c'est le nombre de morts ici, plus de 65 000, un record macabre en Europe. C'est le résultat d'une crise prise au sérieux trop tardivement. Il aura fallu que le Premier ministre lui-même tombe malade, qu'il se retrouve en soins intensifs, c'était au début du mois d'avril. Avant ça, Boris Johnson et tout son gouvernement prenaient ce virus à la légère en fait. Il serrait des mains à tout va, comme si de rien n'était, visiblement persuadé que cette petite grippe allait vite passer. À ce moment-là, il n'écoutait pas les autorités sanitaires, préférant la logique économique, la peur de ralentir le pays. On ne parle à l'époque même pas de le mettre à l'arrêt à ce moment-là. Et après son passage à l'hôpital, Johnson a changé de point de vue, ça s'est ressenti dans sa politique. Il a pris les mesures qui s'étaient imposées à peu près partout ailleurs en Europe, mais avec du retard et donc une mortalité plus élevée.
Et donc en septembre, alors que la fameuse deuxième vague se profilait, la méthode a donc changé ?
Oui, à ce moment-là, il a martelé des conseils, il a tout fait pour essayer d'éviter un nouveau confinement, mais il n'y est pas parvenu, se calant cette fois à peu près sur le calendrier européen. C'est finalement là où il brille d'habitude que Boris Johnson a pêché le plus la communication. Parce qu'à trop jouer les fiers à bras, à trop vouloir prendre des positions définitives, il a dû changer d'avis, manger son chapeau plus de 20 fois dans la gestion de cette crise sanitaire. Et ça s'est vu, la presse à un moment avait même ouvert un compteur. Sa popularité et celle de sa majorité en ont pris un coup. Il y a un an, ils écrasaient les élections générales, s'offrant un boulevard à la Chambre des communes. Et bien ces dernières semaines, les sondages racontent tous la même chose, un effondrement, 20 points de moins, et des conservateurs rattrapés par les travaillistes, pourtant moribonds et en pleine crise interne.
Oui, les effets de la crise sanitaire sur la politique. On peut dire que le Royaume n'a donc pas été très uni cette année.
Oui, et puis c'est vraiment apparu de manière flagrante. C'est d'abord, c'est vrai, une question d'organisation politique. Le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord bénéficient tous d'une délégation de pouvoir avec un Premier ministre dédié à chaque fois. La santé est dans leur rayon d'action et donc les mesures prises pour lutter contre la pandémie ont été décidées à Belfast, à Cardiff, à Édimbourg. Mais souvent sans concertation avec Londres, et on s'est parfois retrouvé dans des situations ubuesques où des Anglais, par exemple, ne pouvaient officiellement plus rentrer au Pays de Galles par mesure de précaution, alors que normalement, cette frontière, elle est totalement virtuelle. On vit et on travaille indifféremment d'un côté à l'autre, sans même se poser la question. Les parlements écossais, nord-irlandais et gallois ont réclamé plusieurs fois des réunions de crise avec Westminster pour collaborer et surtout harmoniser les mesures, mais on l'a bien vu pendant toute cette année, la communication n'est pas bonne.
Et c'est d'ailleurs cela qui a permis à Nicola Sturgeon de briller. La première ministre écossaise est apparue, Richard Place, plutôt solide et sérieuse.
Oui, sa communication a été carrée, alors même que le bilan sanitaire n'est pas bon non plus chez elle. Hein, mais la leader du Scottish National Party a renvoyé l'image d'une dirigeante qui sait ce qu'elle fait. C'est un caillou de plus dans la chaussure de Boris Johnson. Ce ressenti a sans doute beaucoup contribué aux envies d'indépendance de l'Écosse. Tous les sondages l'indiquent, si le vote avait lieu aujourd'hui, elle quitterait le Royaume-Uni. Le référendum, le dernier, a eu lieu il y a 6 ans. Le non l'avait emporté largement, mais depuis, il y a eu le Brexit. Les Écossais avaient voté contre, mais s'ils sont emportés par le reste du Royaume. Il y a aussi la gestion du Covid et puis il y a Boris Johnson qui agace beaucoup Édimbourg.
Et en Angleterre, cette crise a rouvert de vieilles fractures politiques et géographiques.
Ouais, ici, on appelle ça le mur rouge. C'est grosso modo une bande qui couvre le nord de l'Angleterre, d'est en ouest, d'anciennes terres industrielles et minières où l'on votait travailliste. Ce mur s'est effrité au moment du vote sur le Brexit, il y a 4 ans et demi. Il s'est carrément effondré lors des législatives, il y a 1 an. Mais avec la crise du Covid, la reconstruction semble entamée. Ces régions ont très mal vécu les restrictions géographiques différentes. Le gouvernement a voulu adapter les règles selon les taux d'infection. Et c'est justement dans ces coins-là que les chiffres étaient les plus élevés. Magasins et restaurants fermés, économie locale déjà défaillante, mise à mal. Les habitants se sentent méprisés par Londres. Les maires travaillistes soufflent sur ses braises, bien sûr. Et les députés conservateurs ont peur pour leur siège. Alors ils ont chahuté Boris Johnson, eux aussi, qui a décidément vécu une année 2020 très compliquée.
Et nous suivrons avec vous cette année 2021, depuis Londres également, Richard Place. Vous êtes le correspondant permanent de France Culture. Merci à vous et bonne journée.
Et merci à vous, Frédéric Saez. On retrouve ce billet politique sur le site de France Culture, franceculture.fr.